Je vous invite à lire avec moi 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 22. Je lis selon la Bible seconde 21. Vous avez purifié votre âme en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une sémence corruptible, mais d'une sémence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ces paroles de Pierre sur la purification de notre âme me font penser à l'incroyable diversité de méthodes de purification inventées par les hommes. C'est une évidence que la méthode que vous choisirez dépendra de ce que vous voulez purifier. Si vous voulez purifier de l'eau, par exemple, vous aurez le choix entre plusieurs systèmes de purification. À la maison, nous utilisons de petits filtres conçus pour l'eau de robinet. Ce système de cartouches filtrants ne prend pas beaucoup de temps pour purifier un litre d'eau. Par exemple, de métaux lourds, tels que le plomb et le cuivre, et en réduisant la teneur en chlore et en calcaire, au moins si on peut se fier à ce qui est écrit sur l'emballage. Et même si le fabricant nous dit vrai, après un certain temps, la cartouche n'est plus efficace. Elle ne purifie plus rien. Une deuxième chose que les hommes cherchent à purifier est leur corps. On connaît tous ces régimes spéciaux et produits miraculeux qui prétendent drainer des soi-disant « toxines » entre guillemets, du corps. D'être tout cela marche pendant un certain laps de temps, sans doute le temps qu'il faut pour finir la boîte, mais ces maudites toxines reviendront. Il serait donc bien de trouver une autre manière plus efficace de purifier le corps. Et aujourd'hui, c'est votre jour de chance. C'est pas que le jour du Seigneur, c'est votre jour de chance. Car j'en ai une qui pourrait faire l'affaire. Je suis certain que celle-ci vous plairait, même si, je vous avertis, c'est un peu spécial. La flagellation. Aujourd'hui, comme dans le passé, les adeptes de plusieurs religions croient que la flagellation est un moyen efficace pour purifier le corps de ses péchés et de tout mauvais désir. Apparemment, le feu pape Jean-Paul II était un adepte de la flagellation dans le secret de sa chambre. Cependant, ce n'est pas cela qui fera de nous des saints. Car le plus gros défaut de cette méthode, c'est qu'il faut frapper encore et encore le corps. Vous savez, tout ne rentre pas dans l'ordre après un bon coup de fouet. Une troisième chose que les hommes tentent de purifier est l'esprit. Un jour, j'ai vu à la télé un moine bouddhiste qui, dans le but de purifier son âme, allait se retirer dans la forêt pour un an de méditation. Et quand je dis méditation, il ne faut pas penser à ces techniques modernes de relaxation où, par exemple, on se concentre sur une idée ou une image pour se détendre. Pour ce moine, méditer, c'était cesser de penser à absolument tout. Il allait faire le vide dans l'esprit un an durant. en se mettant à l'écart du monde, il espérait améliorer son sort spirituel et ainsi mériter une meilleure vie. Pas celle-ci, mais la prochaine sur terre selon le cycle de la réincarnation, au moins selon ses croyances. Les uns se purifient en espérant améliorer leur sort dans la prochaine vie, les autres se purifient pour avoir une meilleure vie dans celle-ci. Et quand nous, les chrétiens, lisons ces paroles de Pierre sur la purification, il serait bien de nous demander quelle est la raison d'être de cette purification. Essaie-t-on d'améliorer la santé spirituelle du corps maintenant et ici-bas? Ou est-ce qu'une pratique qui vise notre état dans l'au-delà? Pour mieux comprendre ce que dit l'apôtre Pierre, nous allons nous poser trois questions. La première est, quelle est cette purification de l'âme? Dites simplement, la purification dont il est question vient lorsque nous croyons au message de tout ce que Jésus a fait pour nous pécheurs et acceptons le pardon qu'il nous offre par son sang. Le résultat de cette œuvre faite par Dieu est la rémission de toutes nos fautes et erreurs et le rétablissement de la relation entre nous et Dieu que notre rébellion et nos péchés avaient détruite. Voilà, c'est tout ça. Finalement, c'est assez ça. Deuxième question, c'est pourquoi devrions-nous nous purifier? Ces mots de Pierre, pour avoir un amour fraternel sincère, donnent très clairement le pourquoi de la démarche de purification. La traduction du texte grec de la Nouvelle Bible seconde nous donne davantage de précision. Comme vous vous êtes purifiés en vue d'une affection fraternelle sans hypocrisie. Cette purification est à la fois nécessaire à cause de nos péchés et le moyen par lequel nous arriverons à nous aimer les uns les autres. La purification n'est donc pas une finalité, mais une œuvre qui nous ouvre à une vie et à des relations empreintes de la nature même de notre Père Céleste. J'ai une question pour vous. Après avoir créé Adam, le premier homme, pourquoi Dieu a-t-il créé Ève? Pour qu'elle fasse la vaisselle? Je pense que la réponse est non. D'autant plus qu'à l'époque, il n'y en avait pas. La parole en Genèse, chapitre 2, verset 18, nous dit que l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Il lui faut un vis-à-vis, pas une servante qui lave la vaisselle, mais un vis-à-vis. Pourtant, si vous pensez, avant la création d'Ève, Adam n'était pas si seul que cela. Il avait sa relation avec Dieu. Clairement, dans le plan de Dieu, cette relation uniquement entre une personne et Dieu n'est pas suffisante. Le lien au-dessus de tout autre lien qui relie l'être humain, qu'il soit homme ou femme, à Dieu, et qui relie deux êtres humains ensemble, est l'amour. Ce lien d'amour entre Dieu et nous, nous le trouvons dans la première lettre de l'apôtre Jean, au verset 1 du chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. L'apôtre Jean nous montre que c'est par amour, amour de l'un pour nous, que nous sommes devenus les enfants de Dieu. Quant à l'apôtre Pierre, il nous dit que c'est pour nous aimer les uns les autres, d'une manière sincère, que nous avons purifié notre âme. Et que nous arrive-t-il lorsque nous nous mettons à nous aimer les uns les autres? On va lire ce que dit l'apôtre Jean en 1 Jean 5, les versets 1 à 14. Et ça commence, quiconque. Et j'aimerais nous arrêter tout de suite. Est-ce qu'il y a un monsieur quiconque dans la salle? Qui s'appelle quiconque? Tu connais la famille personne? C'est un vrai nom de famille. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'appelait quiconque. Alors, à qui s'adresse l'apôtre? Bien sûr, à chacun d'entre nous. C'est moi, c'est toi, c'est nous. Donc, on ne peut pas se cacher. Qu'on est quiconque, on ne peut pas dire, mais Dieu ne parle pas de moi, mais des autres. Il s'adresse individuellement à chacun d'entre nous. On va reprendre. Alors, en faisant attention aux paroles de Jean, quand il s'adresse à chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine, notre situation ou notre arrière-plan. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Reconnaissant que nous aimons les enfants de Dieu, au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. Petite parenthèse, qu'est-ce que nous avons vu hier après-midi par rapport à l'ordre de mots entre amour et obéissance? C'est écrit, n'est-ce pas? L'obéissance est un résultat de l'amour, et pas l'inverse. Jean continue. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Donc, par notre obéissance, on manifeste notre amour. C'est une réponse à l'amour de Dieu. Et ce n'est pas une loi, une obligation. On peut faire avec joie parce qu'on aime Dieu. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et c'est le monde qui nous dit qu'il faut obéir et faire ci et faire ça en espérant un jour peut-être pouvoir être aimé, approuvé ou accepté. Dieu fait tout l'envers, le contraire du monde. Et nous devons inverser notre fonctionnement par rapport au monde. Remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. C'est par la foi que je saisis et j'accepte que Dieu m'aime. Et qu'il m'approuve. Ce que dit Jean est clair comme l'eau de roche. Notre amour et notre obéissance sont les conséquences directes de l'amour de Dieu pour nous et de notre foi. On n'obéit pas à Dieu afin qu'il nous aime, comme si son amour doit être mérité ou gagné. On lui obéit parce qu'il nous aime et parce que nous l'aimons en retour. Il pourrait vous sembler que nous nous sommes bien égarés bien loin du sujet de la purification. Mais en fait, non. Nous n'avons fait que voir un second aspect de la raison pour laquelle nous purifions notre âme. Si nous le faisons, c'est tout simplement parce que Dieu nous aime. Cela veut dire que pour purifier notre âme, nous n'aurons pas besoin de nous flageller, ni faire le vide dans notre esprit en endurant. Et j'espère que vous êtes aussi soulagés que moi. Après avoir parlé de la nécessité de la purification afin d'être sauvé, et afin d'aimer les autres, à partir du verset 23, Pierre parle de notre besoin de prendre en compte l'éternité. Ce qu'il dit est renversant. Tout ce que les hommes écrivent, construisent, inventent et fabriquent sera un jour perdu à jamais. Comme preuve, Pierre se sert d'une chose si évidente que nul ne pourra le nier. La durée de vie de l'herbe et des fleurs des champs. Lorsqu'ils étaient petits, mes trois enfants aimaient ramasser des pâquerettes. Et quand les enfants ramassent les pâquerettes dans la pelouse, ils apportent aux parents. Mais quelle est la durée de vie d'une pâquerette ramassée un jour d'été? C'est très court, hein? Si tout dans la nature connaîtra un terme en son existence, tel n'est pas le cas pour la parole de Dieu, car elle durera toute l'éternité. En nous parlant de l'éternité, Pierre veut nous faire comprendre que, vu de l'éternité, la poursuite des choses matérielles est vaine. En voici un exemple, il vient d'une ville qui se trouve juste au nord de Chicago. C'est là où se trouve mon ex-église d'envoi. Cette ville est très prisée par les gens riches, mais il n'y a plus de terrain libre pour construire. Alors les gens fortunés achètent des vieilles maisons pour les démolir. Et ensuite, ils construisent une grande maison. Vous savez, taille américaine, encore plus grand. Mais savez-vous ce qui va arriver dans 30 ou 40 ans à ces nouvelles maisons-là? Je pense que quelqu'un va les acheter pour les démolir. Ce n'est pas le cas avec la parole divine. Elle durera pour l'éternité. Notre salut fondé sur l'œuvre de Dieu et sa parole est donc éternel. Puisqu'il est ainsi, et que c'est pour cela que nous sommes sauvés, aimons-nous les uns les autres tellement ardemment que les non-chrétiens voient en nous le reflet de Dieu. Nous sommes le reflet de Dieu lorsque nous aimons les autres comme il nous aime. Et en voici quatre actions par lesquelles il nous montre son amour. Tout d'abord, en s'investissant personnellement dans la relation avec nous. Deux, en se faisant connaître. Trois, en acceptant nos imperfections. Et quatre, en nous amenant à nous purifier de toutes choses qui font du mal, soit à nous-mêmes, soit à la communauté des croyants. Puisque l'amour de Dieu est pur, il est donc normal d'attendre que notre amour soit pur, sans hypocrisie ni insincérité. Le mot grec pour hypocrite vient des comédies de l'Antiquité grecque. Il désignait le comédien qui portait un masque, paraissant ainsi autre qu'il n'était en réalité. Le mot dissimulation révèle bien ce qui est derrière l'hypocrisie. On cache ce qu'on est vraiment dans une volonté de tromper l'autre. L'hypocrisie est un jeu d'ombre, une part de lumière, une part d'ombre. Qui sait finalement ce qui est vrai? Comme les masques dans le théâtre grec, on ne voit pas le vrai. En lisant cette exhortation de Pierre à vivre entre nous un amour ardent, brûlant, évidemment on pense à un feu, n'est-ce pas? Un feu brûlant et chaleur. Et donc je me suis dit que le contraire serait un feu froid. Et ça me semble impossible. Normalement, un feu émet de la chaleur. Avez-vous déjà vu un feu froid? Moi, si. Il m'a fallu un moment pour en trouver. C'est DVD de feu de cheminée. Vous le faites jouer et vous aurez sur l'écran du téléviseur l'image d'un vrai feu avec des vraies bûches. Mais ce n'est qu'un simulacre médiatique qui n'apporte aucune chaleur, aucun bien-être. Je suis convaincu que l'amour hypocrite peut être comparé à ce simulacre de feu, car il n'apporte aucun soulagement, aucun réconfort, aucun encouragement. La déception ou la blessure est encore plus grande lorsque nous comprenons que tout est faux. La troisième et dernière question est de quoi devrions-nous nous purifier? Au début du chapitre 2, même si Pierre n'utilise pas à nouveau le mot purification, il parle d'une seconde purification. Après avoir été spirituellement purifié par Dieu, la prochaine démarche est de purifier notre cœur, notre bouche et notre esprit de tout ce qui nuit à l'amour fraternel entre enfants de Dieu. Étant tous des frères et sœurs en Christ, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres comme notre Père nous a aimés. Au verset 1 du chapitre 2, Pierre énumère une liste de 5 attitudes et comportements: méchanceté, ruse, hypocrisie, envie et médisance, dont nous devons nous débarrasser. J'ai envie d'appeler ces mauvaises attitudes et comportements des extincteurs de feu. Vous savez bien à quoi sert un extincteur de feu. Mais en réalité, ce sont des extincteurs d'amour. C'est malheureux. Mais l'expérience montre que certains chrétiens ne semblent pas comprendre ou ne veulent pas comprendre que leurs attitudes et comportements peuvent faire de mal à ceux que Dieu aime. Le fait de leurs mauvaises paroles, attitudes et comportements est comparable à celui de l'eau jetée sur un feu de camp. Nul besoin d'être politicien pour savoir que l'eau éteint le feu. Quant à l'amour entre chrétiens, on l'éteint le plus souvent, non pas d'un seul et grand coup, comme si on jetait un grand seau d'eau sur le feu, mais par un arrosage, entre guillemets, un arrosage régulier de mauvaises paroles, comportements et péchés. Dans la communauté des croyants, l'obéissance à la vérité doit produire tout naturellement un environnement de bien-être et de réconfort où les uns font du bien aux autres. Bon, même si je n'étais pas né en France, quand même, je n'étais pas né de la dernière pluie. C'est l'être humain qui est en question. Enfin, je sais bien que ce n'est pas toujours le cas dans l'Église. Je sais bien que l'une des premières raisons pour cet état de choses et que les chrétiens ne se sont pas débarrassés des mauvaises attitudes et comportements qui font du mal aux autres. Dans une église, donc j'étais un des deux pasteurs, l'une des membres ne se souciait jamais de l'effet qu'avaient ses paroles sur les autres. Elle disait qu'elle avait le droit de dire la vérité. Et j'étais convaincu que ce n'était que la vérité selon elle. Elle se servait de ce prétendu droit pour dire à haute voix tout le mal qu'elle pensait des autres dans l'Église. C'était sa réponse une fois quand je l'ai confrontée. J'ai le droit. En fait, sa vérité à elle, entre guillemets, n'était que de la médisance et de la méchanceté. Le nombre de gens blessés par cette femme était si grand qu'on pouvait légitimement remettre en question la sincérité de sa foi. Si nous aimons vraiment Dieu, cet amour contrôlera, façonnera et changera notre comportement à l'égard des autres et les mots que nous employerons. Voici un autre exemple. À Ribson Hall, un manoir en Angleterre, se trouve un drôle de statue appelé le majordome à deux visages. Lorsqu'on la regarde de face, on voit un visage souriant, plein de politesse. Mais lorsqu'on regarde de dos, On voit un second visage sur lequel se lit beaucoup d'insolence et d'impolitesse. À l'origine de cette statue se trouve une histoire vraie, un vrai majordome. Un jour, après avoir reçu des ordres de la part de la maîtresse du manoir, ce majordome s'est comporté d'une manière extrêmement, disons, prévenante et polie. Malheureusement pour lui, un peu de temps après, il a été vu en train de faire envers cette maîtresse. Et bien sûr, dans son dos, des grimaces et des gestes très impolis. Ayant appris ce qu'avait fait son employé, la maîtresse du manoir a commandé cette statue et l'a placée dans un endroit où tous pourraient la voir. S'il a agi, ainsi agi, c'était pour accomplir deux choses. D'abord pour humilier le majordome, puis pour prévenir tout autre employé qui aurait la mauvaise idée de la traiter de la même manière que le majordome. L'hypocrisie du majordome était manifestée par ces deux comportements, comment il agissait et parlait en face de la maîtresse et comment il agissait et parlait dans son dos. Quant à l'hypocrisie dans l'église locale, c'est pareil. En face, c'est une chose, mais le dos, c'est son contraire. Un premier exemple de cette hypocrisie et lorsque nous parlons de l'importance de l'amour entre chrétiens, tout en refusant d'adresser la parole à notre frère et à notre sœur. Mon corps, on peut insister au culte sur la nécessité de nous supporter les uns les autres, puis avoir comme habitude de répandre des méchancetés, des mensonges au sujet des autres frères et sœurs dans l'Église. Ce sont des coups d'eau, et j'ai d'eau même, c'est le fait de l'amour. Un troisième exemple d'hypocrisie serait d'affirmer que les chrétiens doivent être au service les uns des autres, puis avoir comme volonté d'être ce chef à bord, et dominer les autres. Un dernier exemple d'hypocrisie est de prier à haute voix que Dieu nous unit, que Dieu nous garde, et puis être une source régulière de blessures, voire de divisions. C'est l'hypocrite, chrétien ou non-chrétien. La vérité, véritable, entre guillemets, n'est pas celle qui proclame à haute voix, mais celle qui se manifeste régulièrement à travers son attitude et son comportement. Dans sa famille, Dieu veut que ses enfants soient vrais comme lui est vrai. Pas d'entre deux, pas de manipulation ou de ruse malsain qui vise autre chose que le bien des autres et le royaume. S'aimer sans simulacre nous permettra d'enlever les masques et d'être en sécurité en nous. Rappelez-vous, Dieu nous aime malgré nos imperfections et il nous accepte malgré nos imperfections. Et donc, s'aimer sans simulacre nous permet de nous accepter avec nos différences et de supporter les faiblesses des uns des autres. C'est ça l'amour. Et c'est l'amour dont tout le monde a besoin de voir et de recevoir. Un amour véritable accepte l'autre tel qu'il est et l'aide à devenir plus fort. L'amour ne démolit pas, il construit, il transforme. C'est ainsi que Dieu nous aime. C'est ainsi que Dieu attend que nous nous aimions. Je termine avec une dernière idée qui va nous aider à bien aimer les uns les autres, et bien aimer Dieu. C'est bien manger pour aimer bien. Depuis quelques années, le gouvernement français a mis en place une campagne contre la fameuse malbouffe. On ne va pas cibler un certain pays pour sa malbouffe, n'est-ce pas? Le but est de nous encourager à manger de manière plus saine et plus équilibrée. On nous encourage à bouger, à ne pas boire trop de boissons sucrées, à manger 5 fruits et légumes par jour. Vous savez tout ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous arrivez à faire manger 5 légumes et fruits à vos enfants. Chez nous, c'est un peu difficile. Les boissons sucrées, ma femme étant française, étant contre, donc ça va. Et finalement, c'est à chacun de faire attention à ce qu'il mange. Le gouvernement peut nous encourager à bien manger, mais à chacun de veiller sur ce qu'il met dans sa bouche. C'est son choix. Au verset 2 et 3 de chapitre 2, Pierre fait la même démarche que le gouvernement, sauf que cette fois-ci, la nourriture en question est spirituelle. Et c'est toujours notre choix. Chacun est appelé, doit veiller à comment il se nourrit spirituellement. Parce que comment on se nourrit spirituellement va affecter comment nous sommes avec les autres. Pierre se sert d'une image de nourrisson qui aime tant le lait de sa mère pour nous montrer l'attachement que nous devons avoir pour la parole de Dieu. Un nourrisson qui aime le lait maternel va en redemander. Il s'y attachera que cela lui fait du bien et qu'il aime le goût. Sans lait, il n'y aura pas de croissance. La parole divine est un lait spirituel qui nous permet de grandir. Plus on en boit, plus on grandit en force, en connaissance et en amour. Ce faisant, nous trouverons un bonheur et un bien-être que les choses du monde ne peuvent pas nous procurer. Soyons donc comme des enfants nouveau-nés et désirons sa parole qui nous fera grandir. Et aimons-nous ardemment les uns les autres comme un feu brûlant pour que notre communion nous procure une paix, un bonheur et un bien-être que le monde et les choses du monde ne pourront jamais nous offrir. Je vous invite à prier. Seigneur, ces paroles de Pierre sont fortes et claires. Mais tu sais aussi dans la vie, le passé de chacun d'entre nous, tout ce qui était contraire à cette parole et cette volonté. Et je te remercie que malgré tout cela, ton amour est continuel, constant, inépuisable. Je te dis que tu t'es approché de nous malgré nos difficultés, nos erreurs, nos faiblesses. Et tu dis par ton esprit que tu nous aimes, que tu m'aimes, chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour cet amour. Merci pour le projet que tu mets, le plan que tu mets devant nous, ce que tu veux que nous soyons. Ce que soit l'Église. Tu sais aussi, Seigneur, que c'est un choix et un travail pour devenir tout ce que tu veux que nous soyons dans cette vie nouvelle que tu nous donnes. Je prie pour chacun ici, comme pour moi-même, que tu agisses dans notre vie, que par ton esprit, tu donnes le désir de la parole et de l'amour et le bien-être qui vient quand nous cherchons à mettre en pratique ton enseignement. Seigneur, aide-nous dans nos choix et notre propre volonté à désirer et chercher ce qui est vraiment bon. Il y a tellement de fois où on peut profiter d'une situation, gagner quelque chose, et tu nous appelles à laisser derrière pour ce qui est meilleur. Aide-nous, Seigneur, à tendre, à désirer ce qui est meilleur. De recevoir encore de toi et pour donner encore plus aux autres, afin de célébrer la gloire de ta grâce.